Alors, je vais commencer par une introduction générale. Pour qu'on puisse mieux comprendre le contexte du livre
d'Ésaïe.
Le livre d'Ésaïe est parfois difficile à comprendre. Mais il contient beaucoup de passages extraordinaires. Le livre d'Ésaïe est très, très important pour les Africains. Pourquoi? Quel est le premier Africain qu'on connaît qui a été converti? Un Éthiopien. C'est un Éthiopien qui était à Jérusalem pour une fête.
Et
on a lu ce matin, un frère Philippe a eu la révélation qu'il allait dans le désert.
Et
il a rencontré cet Éthiopien qui lisait. Vous vous souvenez quel passage il est en train de lire dans
le verset
53. Et il comprenait rien. C'est Philippe qui lui a ouvert la clé des Écritures. Cet Éthiopien, sur la base d'un texte
d'Ésaïe,
s'est converti. Je crois qu'on l'a lu ce matin, il s'est même fait baptiser dans le désert, où il y avait de l'eau. Et il a pu continuer jusqu'en Éthiopie. Je pense qu'il a répandu l'évangile. Alors ça c'est pour l'introduction générale.
Il
faudra voir aussi géographiquement ce qui se passait à l'époque. Mais d'abord une géographie rapide. Le premier verset du livre d'Ésaïe.
Il faut attendre qu'on termine le rendissement. C'est ce qu'on peut arrêter la bataille.
Ah.
Yeshai, chapitre
1. Qu'est-ce que je vais faire, Michel?
Le verset 1.
Chapitre 1, comment dit-on?
C'est une vision d'Ésaïe.
Tu sais, comment on a dit Yeshai?
Qu'il a eu à Jérusalem ou dans les environs durant les règnes de quatre rois. Ozias, Jotham, Akaz,
Ézéchias.
Et on sait que Ésaïe a été appelé à être prophète. La mort du roi
Ozias.
Donc il avait peut-être 20 ans à cette époque. Puis ensuite, il a connu trois rois. Trois rois qui ont régné en tout environ 60 ans. Donc quand Ézéchias est mort,
Ésaïe
a encore continué d'écrire. Et on pense qu'il est mort vers 80 ans ou un peu plus. Sous le règne d'un roi qui n'est pas mentionné ici, c'est Manassé. À son époque, Ésaïe n'était pas le seul prophète. Mais il était contemporain de deux autres prophètes, Osée et Michée.
Sa situation familiale nous est un peu connue.
Bouledi bobo anji, tudi bobo manye kakes.
Il était marié à une femme appelée la prophétesse.
Wa kajino mukaji, wa kajiba bigelane, mo prophète mukaji.
Et il a eu deux enfants avec des noms curieux.
Wa kufeta bana bobijine mena jake mesha.
Mais qui avait une signification.
Kaji mena kajine jomvuija.
Ça, on verra peut-être en fin de séminaire ce matin.
Mon message, on est tout mon est bon le bouquin chigilo.
Ah, c'est Maher Shalal Shashbaz. C'est pas important.
Ah, mais là bas, là, à Gini, tu vois, c'est que tu
es là, mon chien, à toi.
Mais là, tu passes la vie, c'est nous, tu vas dire.
C'est des noms qui signifient quelque chose. Et c'est un écrivain qui a beaucoup écrit. Alors on a le livre d'Ésaïe qui est un livre conséquent. Et mais on lit dans 2 Chroniques 26, verset
22.
Chapitre 26, verset
22.
Le roi Ozias est mort. Et c'est le Ésaïe qui a écrit sa biographie. Il écrit le reste des actes d'Ozias, les premiers ou derniers, ont été écrits par le prophète Ésaïe. Donc il était historien, écrivain. Et puis quand le roi Ézéchias est décédé, dans 2 Chroniques, chapitre
32, verset 32.
On voit que le reste des actes d'Ézéchias a été écrit par
Ésaïe.
Donc il a écrit comme une biographie du roi Ézéchias. Et dans le livre d'Ésaïe, il y a 4 chapitres ou 5 qui sont dédiés au roi Ézéchias aussi. Et on ne peut pas lire le livre d'Ésaïe sans mentionner la situation historique dans son
temps.
Parce que le pays d'Israël est divisé encore en deux royaumes. On peut voir ici, disons, c'est Jérusalem, qui est la capitale, la ville principale du royaume du sud. Et les rois qui succèdent sont appelés les rois de Juda. Et au nord, il y a encore le royaume du nord, avec Samarie comme capitale. Ces royaumes sont assez petits, ils sont assez faibles. Et à cette époque, c'est une puissance qui se trouve par ici qui est dominante. Elle s'appelle l'Assyrie. Et pendant le service d'Ésaïe, c'est passé historiquement des choses importantes dans ces deux pays. C'est pendant le règne
d'Ézéchias
que le royaume de Samarie disparaîtra.
Et
les Assyriens détruiront Samarie
Benasulia bayare kubumbula
et déporteront les habitants.
Nebatwana bakwokesha benegitungeji ubufika mwabo.
Et ce sera la fin du royaume du Nord.
Bukwokesha bakuno debushikijiluwabo.
Et Esaïe a beaucoup prophétisé concernant cette déportation. Il a prophétisé que ce pays sera détruit. Et il a lui-même vécu la période où ce pays a été déporté. Donc, de son vivant, il a vu que certaines de ses prophéties se sont réalisées. On y reviendra en détail plus tard. Mais les Assyriens étaient très puissants et cruels. Et déjà, ils pratiquaient la purification ethnique. Ils
faisaient
disparaître la population d'une région.
Et
pour nous, ce livre d'Ésaïe est très important parce qu'il a été nommé l'Évangile selon
Ésaïe.
Il y a quatre évangiles dans le Nouveau Testament. Il y a des choses qui se retrouvent dans le Nouveau Testament et dans Ésaïe, des paraboles. C'est le livre le plus cité dans le Nouveau Testament après les
psaumes.
Il est très souvent cité en rapport avec la vie de Jésus. Et Jésus lui-même le cite souvent. Alors, Ésaïe va parler de ce royaume d'Assyrie ici. Mais il aura aussi des prophéties pour tous les pays qui entourent Israël.
Il y a
l'Égypte, Édom, toutes sortes de
populations
sur lesquelles Ésaïe va faire des prophéties. Et sur l'autre côté, maintenant qu'on a vu la situation géographique, sur l'autre côté du tableau, j'ai écrit un tableau qui donne le plan du livre en trois parties. Et pour moi, de voir ce tableau, ça m'a beaucoup aidé à mieux comprendre Ésaïe. Alors je vous décris rapidement
la
vue de cette situation. Les 35 premiers chapitres, on peut l'appeler le livre des jugements. Une parole qui dérange. Une parole qui dérange, parce que le Ésaïe doit prophétiser des jugements qui arriveront sur le pays.
Et
savoir qu'il y a des choses difficiles, des temps difficiles qui vont arriver, c'est difficile de le prophétiser. Et on voit tout de suite dans le premier chapitre, déjà au verset 4, Esaïe écrit « Malheur à la nation pécheresse ». On voit que ce livre d'Esaïe commence directement dans le premier verset par des jugements. Et ces jugements, c'est important de savoir. Ça concerne le temps de l'hégémonie assyrienne. On a vu que du temps d'Esaïe, c'était les Assyriens qui étaient les ennemis dangereux, qui dominaient. Et Esaïe a prophétisé plusieurs événements qui se passeraient du temps des Assyriens. Donc c'est lui qui a prophétisé que ce seraient les Assyriens qui viendraient détruire Samarie et le royaume du Nord. Et quelques années après sa prophétie, Ça s'est effectivement réalisé. Ça, c'est la première partie. Et puis, il y a une deuxième partie, des chapitres 36 à 39. C'est une partie qui nous fait vivre un peu la période d'Ézéchias. Mais ça concerne spécialement Ézéchias. Et là aussi, Esaïe a eu des prophéties pour Ézéchias. Ces prophéties se sont réalisées du temps d'Ézéchias. Il a prophétisé, on le verra en détail plus tard, mais il a prophétisé qu'Ézéchias allait mourir. Puis il a une révélation de Dieu. Il disait non, Ézéchias, tu vas vivre encore 15 ans. Et après, Ézéchias a été guéri et il a vécu 15 ans. Alors c'est vraiment une parole que je peux prendre dans ma vie aujourd'hui. L'enseignement que je peux apprendre de ce roi Ézéchias. C'est encore des choses qui nous concernent maintenant aujourd'hui. Et j'ai cité simplement un verset de ces chapitres. Mais c'est un verset qui donne le ton de ces chapitres. Et qui dit, Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit. C'est une parole qu'Ézéchias a prononcée. Et puis la dernière partie du livre, chapitre 40 à 66, c'est le livre des consolations. Vous voyez la différence entre le livre des jugements pour cette époque. Le livre des consolations, c'est une parole qui guérit et qui libère. Et quand vous lisez le premier verset du chapitre 40, c'est mis consoler, consoler mon peuple. Il y a de nouveau beaucoup de prophéties concernant différents peuples. Mais ça concerne principalement le temps de l'hégémonie babylonienne. Ici, la Syrie est encore puissante. Mais Esaïe prédit plus d'une centaine d'années à l'avance.
Ah, Yeshaya, uyaye kujanza kuamba bijimu bya lukama komusufa lukama jambeji.
Que ce sera une autre puissance qui viendra puissante, ce sera Babylone.
Nibrikale bungu kokeshibwa lukutamba kokokeshomutwa benasuri.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors
ça concerne des temps futurs. Des temps futurs pour
Ésaïe.
Mais ces prophéties vont bien au-delà. Des prophéties qui nous concernent nous. Et des prophéties qui concernent la fin de l'Église. Alors c'est bien de distinguer ces
outils.
C'est parti parce que ça nous permet de donner une certaine structure au livre des Aïe.
Alors maintenant
on va commencer à voir plus en détail les premiers chapitres. Alors la première partie, donc dans cette première partie, on va distinguer les premiers chapitres, les chapitres 1 à 5. Alors dans ces chapitres 1 à 5, il s'agit de prophéties qui concernent Jérusalem et le royaume de Juda. C'est spécifique pour ces deux royaumes d'Israël. Alors au chapitre 1, tout le chapitre 1 concerne, sont des prophéties contre Jérusalem et Juda. Et je vous ai dit, c'est toutes des prophéties de jugement, de malheur. On peut lire les versets 2 et 3. Alors on voit que dès le début, le prophète Ésaïe annonce que le peuple de Juda et de Jérusalem se sont révoltés contre Dieu. Ils ont rejeté Dieu. Et Dieu veut intervenir. Et le prochain verset commence, malheur à la nation pécheresse. Alors même s'il y a des jugements dans ce premier chapitre, Dieu offre toujours une possibilité de salut. Verset 18, on peut le lire ensemble. On voit que même si les péchés étaient les pires péchés qu'on puisse connaître, Dieu, par le pardon, pouvait tous les effacer. Mais le peuple ne tient pas compte de cette possibilité. Verset 19, Dans le chapitre 2, les versets 1 à 5.
Mu chapitre muibiji verse wa kumujitondo kuti muitane.
Esaïe prophétise.
Yeshaya mmea chi prophète kabiji.
Qu'il y aura de la gloire et de la paix à Jérusalem.
Butumbi ni lumu ni dikala ku Yerushalema.
Il y aura dans l'avenir un moment où tout le monde voudra, des peuples se rendront en foule à Jérusalem.
Donc
c'est une vision dans le futur. Alors que lui-même annonçait la destruction de Jérusalem.
Esaïe 2,
verset 3, on peut le lire. On voit que à un moment donné, des foules viendront à Jérusalem.
Et ils
suivront Dieu fidèlement.
Les
versets, chapitre 2, verset 6.
Chapitre 3, verset 12.
Au chapitre 3, verset 12. Il est parlé de l'homme orgueilleux. L'orgueil a toujours fait chuter les hommes. Mais, dit Esaïe, au verset 11, à la fin, c'est toujours la grandeur des hommes qui devra s'incliner. Et c'est l'Éternel seul qui sera élevé. Il le répète au verset 17.
Chapitre 2.
L'orgueil de l'homme devra s'incliner. Et seul l'Éternel sera élevé. L'orgueil, c'est penser pouvoir faire ma vie sans Dieu. Mais il y a un avertissement au verset 22 du chapitre 2. Arrêtez de mettre votre confiance dans l'être humain en vous-même.
Et
pour ne pas tomber dans l'orgueil, il faut lever les yeux vers le Seigneur. Donc c'est humiliation de l'homme orgueilleux. Et dans le chapitre 3, les versets 13 à 15,
mon chapitre 3, verset 13 à 15,
donc c'est l'Éternel, c'est Dieu qui se présente comme un juge. Et c'est lui qui viendra pour juger les peuples. c'est toujours Dieu qui aura le dernier mot. Maintenant, du chapitre 3, verset 16. Au premier verset, au chapitre 4, verset 1, il est parlé de l'humiliation de la femme orgueilleuse. Je vous conseille de lire chez vous ces versets. Ça nous donne beaucoup d'informations sur l'habillement, les décorations. Les femmes orgueilleuses, c'est celles qui aiment bien se parer, se montrer. Mais
Esaïe
doit dire non. Un jour, elles seront humiliées. Ces femmes dépouillées s'assieront par terre. Et vous pouvez déjà voir un peu la structure de ces chapitres 1 à 5. Et on a vu que Dieu était juge. Et juste les versets qui précèdent, c'est l'humiliation de l'homme orgueilleux. Et juste après, l'humiliation de la femme orgueilleuse. Et avant avoir traité le thème de l'homme orgueilleux, il y avait la paix, la prophétie de la paix et de la gloire sur le mont Sion à Jérusalem. Alors il y a une certaine symétrie parce qu'après l'humiliation de la femme orgueilleuse, il y a de nouveau une prophétie sur la gloire de Sion, de Jérusalem. C'est le chapitre 4, les versets 2 à 6. On peut lire le verset 2. Chapitre 4, verset 2.
Chapitre 4, verset 2.
Alors il est parlé de quelqu'un qui sera le germe de l'Éternel, c'est une allusion à une personne. Une personne glorieuse qui reviendra, qui attirera dans ce pays toutes sortes de rescapés d'Israël. Et Jérusalem, à un certain moment, sera de nouveau glorieuse. Et
chapitre 4,
verset
5,
ces c'est de nouveau des prophéties contre Juda et Jérusalem. Ça, c'est à la fin de ces chapitres. Et vous vous souvenez que tout au début, c'était aussi une prophétie sur Juda et Jérusalem. Donc il y a toute une symétrie dans ces cinq premiers chapitres. Ça peut nous aider à mémoriser un peu la structure. Et dans le chapitre 5, Esaïe parle d'Israël comme une vigne. Et on va lire les versets 1 et
2.
Wa mujimu vanji vatumwa twanzinyo wani munano wakadini kuchimbidwa vatumwa twanzinyo vamutika mukuna wakadini kuloko kuyimbe.
Et on peut lire encore dans le chapitre 5, le verset 7. Donc il donne l'explication de cette vigne. C'est qui la vigne? C'est le peuple d'Israël. Et il dit, mais j'ai fait tout mon possible pour qu'elle produise du fruit, cette vigne. Elle n'a rien produit de bon. Est-ce que ça vous rappelle une parabole?
Oui.
On la trouve dans Matthieu 21. Alors on ne va pas la lire en détail. Qu'est-ce que j'ai dit? Matthieu 21, verset 33 à 44. Et la première partie est presque un copier-coller
d'Ésaïe.
Mais il dit, Jésus dit, mais le maître, le possesseur de la vigne a envoyé souvent des serviteurs pour chercher le fruit. Et parmi ces serviteurs, on peut penser qu'Ésaïe avait été un de ses serviteurs.
Mais
il dit, ces serviteurs, vous les avez méprisés, vous les avez tués. Et Jésus apporte quelque chose de nouveau.
Et
il dit, mais le maître de la vigne envoie maintenant son propre fils. Et qu'est-ce que disent les vignerons quand ils voient arriver le fils?
Verset
38. Venez, tuons-le. Et c'était une parabole pour sensibiliser les Juifs, ceux qui écoutaient. Disons que Jésus était venu pour sauver son peuple. Mais il sera mis à mort aussi. Et on voit que pourquoi on peut appeler aussi Ésaïe comme l'évangile de l'Ancien Testament. On voit quelque chose qui se superpose. Quand Ésaïe l'a écrit, il n'a peut-être pas tout compris. Mais Jésus reprend cette parabole pour la compléter. Et nous, on peut beaucoup mieux comprendre tout le plan de Dieu. Mais voilà, ce qui, dans le chapitre 5 d'Ésaïe, parce que la communauté d'Israël a refusé de suivre Dieu, Ésaïe doit dire au chapitre
5,
verset
13,
la première partie. Qu'est-ce qu'il annonce, Ésaïe? Et voilà. Voilà pourquoi mon peuple sera mené en exil. C'est vrai que c'était un jugement sur Jérusalem et le royaume de Juda. Et ça s'est réellement passé. Mais pas du temps
d'Ésaïe.
Ça s'est passé bien des dizaines d'années plus tard. Et on voit que quand Dieu dit quelque chose, bien, elle arrive. Donc, dans ce dernier chapitre, Dieu compare son peuple à une vigne. Une vigne qui bénéficie de tous les soins du cultivateur. Mais le peuple méprise Dieu. Alors dans les chapitres qui suivent, 6 fois de suite, on voit des malheurs sont prononcés sur Juda. On
ne
va pas tous les citer. Mais déjà, dans chapitre 5 au verset
8,
malheur à vous. On peut, au verset 11, malheur à ceux qui courent de bon matin, etc., après les boissons enivrantes. Verset 18, malheur à ceux qui sont attachés à leur faute. Etc. Esaïe ne peut annoncer que des jugements. Et c'est dans le chapitre
6,
on voit Esaïe apparaître. Et lui aussi devra annoncer un malheur. Mais il devra dire malheur à moi. Alors on va lire la vision
d'Esaïe.
Elle est décrite dans les versets 1 à
4.
Et Esaïe, c'était probablement sa première vision, parce que c'est là qu'il a été appelé comme prophète.
Et
pour faire une petite parenthèse, on a parlé quelle est la différence entre un rêve et une vision. Et le frère Jacques nous a bien indiqué ce qui se passe dans notre cerveau quand on rêve. C'est des choses qui se passent dans notre sommeil. Et on pourrait dire qu'on voit des choses un peu dans notre tête. Mais ici, Esaïe dit, l'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône. C'est des choses qu'il voyait comme un film qu'il voyait devant lui. Alors, on lit les versets 1 à 4.
Mm.
Alors on voit que avant de servir comme prophète, Isaïe doit faire cette expérience personnelle. Il est confronté à la gloire de Dieu. Une gloire presque insupportable. Et il peut dire seulement, malheur à moi. Il réalise sa condition de pécheur. Et alors il doit confesser son péché et aussi celui du peuple. Il dit de lui-même, je suis perdu. Et j'habite au milieu d'un peuple aussi perdu. Et c'est alors qu'un des anges, un des séraphins, mais un des anges vient avec comme une braise pour purifier ses lèvres. Et qui lui dit, ta faute est enlevée, ton péché est expié. Là aussi, Esaïe avait entendu ces paroles, Saint, 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 et l'Éternel des armées. On l'a déjà entendu cette triple répétition.
Veut
dire que la sainteté de Dieu est absolue. En français, on a, si on dit Dieu est saint, Dieu est plus saint et Dieu est le plus saint.
Mon Quand
on dit, alors, ceux qui sont enseignants, dites-moi la grammaire. Quand on dit le plus saint, c'est le superlatif. Quand on dit il est plus saint, c'est seulement un comparatif. Mais nous, en français, on peut dire Dieu est le plus saint et c'est une sainteté absolue. Mais en hébreu, le superlatif n'existe pas. Les hébreux, pour dire que Dieu est le plus saint, sa sainteté absolue, il répétait trois fois le mot. Donc il faut bien comprendre cette expression, sans ça. On a parlé de ce Dieu trois fois saint, mais
kumbwa bijibika ngalo kumbwa chambilo ekibimbe bwalwa abantu bibamba wanjine misangu isatu.
Ça veut dire que seul Dieu a une sainteté absolue.
Nkwamba ne zambi nganyi sunga sunga kujinga ene bubuwa chijibu.
Et à la fin de cette vision, Dieu plutôt Esaïe entend une voix qui dit, mais qui vais-je envoyer? Qui vais-je envoyer qui va marcher pour nous? Et alors, Esaïe dit, me voici. Envoie-moi. Je veux être ton serviteur. Donc il était purifié par un charbon pris sur l'autel. Qui nous parle déjà de la croix de Christ à l'avance. Son péché est ôté. Et Esaïe répond à l'appel. Donc il a, on peut imaginer qu'il est jeune encore. On peut dire pour être raisonnable qu'il a environ 20 ans. Alors, maintenant on va considérer les chapitres 7 à 12. Qui contiennent des prophéties étonnantes. La première partie du chapitre 7 jusqu'au chapitre 9, verset 6. On peut l'appeler le livre d'Emmanuel. Et puis le chapitre 9, verset 7. Chapitre 10, verset 4. On voit qu'il y a une prophétie qui concerne la Syrie. Qui sera comme un outil, un instrument dans les mains de Dieu pour juger Israël, le royaume du Nord qui va être déporté. Qui annonce à l'avance aussi que la Syrie sera jugée. Et puis du chapitre 11, verset 1, jusqu'au chapitre 12, verset 6, il y a de nouveau une prophétie qui nous annonce une gloire future
d'Israël.
Mais d'abord, au début du chapitre 7, il est parlé d'un fait historique. Et c'est un rare passage qui nous parle d'un fait historique dans le livre d'Esaïe.
Avec
l'exception de ces chapitres centraux qui concernent le roi Ézéchias. Mais ici, c'était un roi.
Oui,
c'est normal.
Ah, c'est pas... Excusez-moi. D'un coup, j'ai eu peur. Le roi Akaz, qui était le père du roi Ézéchias, mais qui n'était pas un roi qui craignait Dieu.
À
un moment donné, pendant son règne, le royaume du Nord et qui s'était allié à un autre roi veulent attaquer le royaume de Juda. Et On voit que c'était sérieux. On voit à la fin du au chapitre 7, à la fin du verset 2. Akaz et son peuple en furent tous secoués, comme les arbres de la forêt lorsqu'ils sont secoués par le vent. J'aime bien cette façon d'écrire d'Esaïe. Ces comparaisons qu'il fait. Et on voit qu'Akaz a été terrorisé. Alors Esaïe doit aller rencontrer ce roi Akaz. Il lui dit, prends ton fils et puis va là-bas vers le en Aksu, qui était près d'un réservoir. Là, tu rencontreras le roi Akaz. Et tu vas lui demander de faire confiance à Dieu. Et Akaz, enfin, ce que tu dois lui dire, mais sois tranquille, n'aie pas peur. Au chapitre 7 au verset 10, l'Éternel fait dire encore à Akaz, demande pour toi un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs de la terre ou dans les cieux les plus élevés. Et Akaz dit non.
Akaz, hein?
Je ne demanderai rien. Je ne veux pas provoquer l'Éternel. Bon, dans son cœur, Akaz n'avait aucun respect pour Dieu. Et alors, Esaïe répond. Et c'est un message étonnant. Esaïe dit, mais Dieu va donner un signe. On lit les versets 13 à 14. Oui. Alors on voit, Dieu dit, mais Akaz, je ne veux pas demander un signe. Mais moi je vais vous donner un signe. Montrez que je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et c'est là qu'il annonce qu'une vierge sera enceinte. Et qu'elle mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. Et alors, on peut lire Matthieu chapitre 1. Les chapitres 21 et 22. Et c'est un ange. Mmh. On voit que cette prophétie de d'Ésaïe s'est accomplie parfaitement en Jésus-Christ.
Mais ce prophète a
et c'est confirmé par la citation de ce verset d'Ésaïe. Donc il y a eu un plein accomplissement en Jésus-Christ. Mais il y a eu aussi un accomplissement partiel dans un deuxième fils qui est né à
Ésaïe.
Parce qu'on s'est arrêté au verset 14 dans le chapitre 7. Mais si on lit à partir du verset 15
et 16,
ici la prophétie de d'Ésaïe continue.
Mais ce prophète a Yeshaya déjà tout le
comme s'il parle d'un autre enfant qui naîtra.
Wakulabuni ni kui kal mumu mwana wa kulejibwa.
Et avant qu'il soit devenu très grand, il parle à Akaz, le territoire dont tu redoutes les deux rois sera abandonné. Donc le territoire de Samarie, Akaz, le territoire dont tu redoutes les deux rois sera abandonné. Donc les deux rois, un des deux rois qui a attaqué le royaume d'Akaz était le royaume du nord. Et là il dit, ben, ce royaume-là sera abandonné. C'est la déportation de ce royaume de Samarie. Alors qui est ce jeune bébé qui devait
naître?
On peut penser que la famille d'Ésaïe serait comme une image de cet événement.
Et au
chapitre 8, au verset
3,
Ésaïe parle de lui-même
et
il dit, je me suis uni à la prophétesse, elle est tombée enceinte
et
elle a mis au monde un fils. Alors l'Éternel lui dit de lui donner un certain nom qui s'appelle Maher Shalal Shash-Baz. Donc c'est un nom compliqué, mais qui veut dire vite, qui annonce un pillage qui aura lieu rapidement. Vite en pillage, en hâte au butin. Et Et c'est un verset un peu, c'est un nom un peu symbolique. Mais qui annonce ce qui va se passer après. Parce que cet enfant est né, il a grandi, mais quand il est encore très petit, le royaume du Nord a vraiment été détruit. Donc ces prophéties d'Ésaïe sont des fois difficiles à comprendre. Il y a des fois une continuité entre le futur immédiat et puis un horizon messianique beaucoup plus loin. On a vu dans les premiers chapitres où il y a ces jugements. Il y a des jugements qui sont passés du temps
d'Ésaïe.
Puis tout à coup, il y a des prophéties qui disent que Jérusalem sera une ville extraordinaire. Donc dans un même passage, on peut passer dans une perspective actuel et dans une perspective qui dépasse notre temps. Donc l'accomplissement du signe d'Emmanuel, c'est-à-dire la venue du Messie, sera clairement expliqué par le chapitre 9, mais par cette citation de Matthieu 1. Dans le chapitre 9, au verset 5,
il peut le remplacer. Oui, alors. Oui, c'est pas bien.
Donc, dans le chapitre 9 d'Ésaïe, il y a de nouveau une prophétie concernant le Messie.
Et
ce passage nous explique clairement qui est cet enfant Emmanuel. On lit les versets chapitre 9,
versets
5 à 6. Alors on voit que c'est des versets qui ne peuvent pas s'appliquer à Ésaïe ou à personne. Elle s'applique vraiment qu'au Seigneur quand il est venu sur la terre. Donc cette prophétie d'Emmanuel, c'est passé beaucoup plus tard. Donc c'est une prophétie à long terme. Mais on voit qu'il y a aussi dans le chapitre 7, les versets 15 et 16. qui a aussi un accomplissement à court terme.
À très
court terme, dans les années qui ont suivi le message à Akaz.
Et
on peut penser justement à ce deuxième fils qui est né à
Esaïe.
C'est un commentaire général sur les prophéties dans le livre d'Ésaïe.
Et ça vaut
la peine d'y réfléchir. Parce que les prophéties, souvent, il y a un aspect immédiat. Quand on gravit une montagne, on gravit une colline, on voit le sommet de la colline.
Et
je vois qu'une partie. Si je monte, je vois que derrière,
il y a une vallée.
Peut-être derrière une montagne plus
haute. Mais quand
je suis devant la colline, je vois qu'un sommet.
Je ne
vois pas les deux
sommets. Il peut
même y en avoir.
3 ou 4.
Et par exemple, je vais finir par ça. C'est dans un autre chapitre, c'est pour prendre un exemple du livre d'Ésaïe.
Au chapitre 49, verset 6,
c'est un chapitre qui parle d'un serviteur. C'est Dieu qui parle à
Ésaïe.
Il dit, je t'établis pour être la lumière des nations. Pour apporter mon nom, mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Ésaïe peut penser qu'il est aussi un messager de Dieu pour apporter la lumière.
Mais
si on lit dans l'évangile de Luc,
au chapitre 2, au chapitre
2, on voit que ce verset est appliqué à Jésus. Chapitre
2, verset 32.
Peut-être j'explique le contexte de ce verset. Ça s'est passé au moment où Jésus était né et il était présenté au temple.
Et
là, il y a un homme âgé qui était pieux, qui était juste.
Et
quand il a vu le petit bébé, il a dit, mais ça c'est le
Messie. Et
après, il donne sa bénédiction à cet enfant.
Et
il dit, cet enfant sera la lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël. Donc cette prophétie sur le serviteur d'Ésaïe 49
s'applique
aussi à Jésus. qui allait annoncer le salut pas seulement aux Juifs, mais aux nations. Et cette même prophétie, cette même citation est reprise par l'apôtre Paul. Il l'applique à lui-même, à son ami Barnabas.
Barnaba.
Et c'était quand il évangélisait dans une ville qui s'appelait Antioche de
Pisidie.
Il allait toujours évangéliser dans les synagogues. Mais les Juifs étaient remplis de jalousie et ils s'opposaient totalement à ce que disait l'apôtre Paul. Alors l'apôtre Paul leur dit, mais c'était à vous premièrement que je voulais annoncer l'évangile. Mais maintenant, je vais me tourner vers les non-juifs, vers les nations. Et Acte 13, verset 47.
Et
il dit, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné.
Et
il cite ce verset d'Ésaïe. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alors on voit que peut-être un verset prophétique peut s'appliquer dans le cas particulier à Isaïe, s'applique à Jésus, et l'apôtre Paul l'applique à lui-même en disant j'ai reçu du Seigneur ce verset. Alors on voit que ces prophéties glissent des fois les unes sur les autres. Et dans une perspective qui dépasse notre intelligence. Et c'est souvent après coup qu'on réalise que la prophétie s'est réalisée. Alors je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui parce qu'on va continuer demain et après-demain. Et demain, on commencera par des prophéties qui concernent les ennemis d'Israël. Jusqu'au chapitre 12, c'était les Judas, le royaume de Juda, les rois de Juda. Et maintenant, ce sera les prophéties contre les ennemis d'Israël. Mais je n'en dis pas plus pour aujourd'hui. Merci.